Chapitre 21. Son séjour au bord de la mer avait été trop agréable à Madame d'Arverne pour qu'elle ne voulût pas, sinon le renouveler, ce qui était impossible en ce moment, au moins lui donner un équivalent. « Je m'installerai bientôt à Vaupéreux, » avait-elle dit à Roger, « et tu auras ton appartement près du mien. » Deux jours après son retour à Paris, elle s'occupait de cette installation. C'était ordinairement au mois d'août qu'elle quittait Paris pour Vaupéreux. Aussi, en la voyant disposée à partir dès le commencement de juillet, le duc d'Arverne l'avait-il félicitée et remerciée de cette détermination. Car ce qu'il aimait par-dessus tout, le duc, c'était sa terre de Vaupéreux. Les loisirs qu'il pouvait arracher aux affaires, il les lui donnait. Tout l'argent qu'il pouvait distraire de ses dépenses ordinaires et obligées, il le consacrait à l'agrandir et à la réparer. Lorsque l'empereur la lui avait donnée, elle était dans un état pitoyable de délabrement. Les murs et les toits du château faisaient à peu près bonne figure, grâce à la solidité avec laquelle ils avaient été construits, mais c'était tout. Depuis 50 ans, on n'y avait pas fait pour un sou de réparation, lui demandant toujours, ne lui donnant jamais. C'était ainsi que le parc, dessiné et planté par le nôtre, avait été rasé d'année en année, et que ces arbres admirables, qui auraient pu vivre encore 100 ou 150 ans, avaient été transformés en bois de corde. C'était ainsi que le mobilier qui la garnissait avait été vendu pièce à pièce, en commençant par les tableaux, en finissant par les tuyaux de plomb qui amenaient les eaux dans les bassins du parc. Et cependant, cette terre de Vaupéreux eut bien mérité d'être conservée intacte, telle qu'elle était sortie des mains de Hardouin, Mansart et de Lenôtre, ses architectes. Construit à une époque où l'on ne prenait pas souci de la vue et où l'on plaçait le château de Dampierre dans une mare et celui de Marly au fond d'un marécage enfermé de collines de toutes parts, Vaupéreux avait été planté en conformité de cette règle qui paraît avoir présidé à l'emplacement de presque tous les châteaux construits sous Louis XIV. Au lieu de l'édifier sur une des collines qui l'entouraient, on l'avait mise au milieu d'une prairie, de manière à pouvoir l'entourer de fossés aux eaux courantes, comme il était de mode alors. Mais justement, parce qu'on avait la nature contre soi, on avait beaucoup demandé à l'art, et les bâtiments qu'avait élevés Mansart étaient vraiment empreints d'un cachet de noblesse et de grandeur. Après avoir franchi un pont-levis, jeté sur un large fossé revêtu en maçonnerie et couronné par des balustres de pierre, on se trouve dans une cour d'honneur, le long de laquelle règnent de chaque côté les communs, et l'on a devant soi le château qui, de loin, à cause de son emplacement bas, paraît écrasé, mais qui, de près, développe sa belle et majestueuse ordonnance avec son corps central et ses ailes en retour, sa façade en pierre de taille et en briques, son toit à fenêtres mansardées dans le style de l'époque et son large perron qui précède une terrasse dallée en pierre allant d'une aile à l'autre. Avant la dévastation du parc, de belles avenues d'ormes partaient de ce perron et, après avoir traversé la prairie, elle gravissait les pentes de la colline en ouvrant çà et là de vertes perspectives. Mais les ormes arrachées, il n'était plus resté que des grands sillons et des pelouses bordées de chaque côté par des taillis et des bois. En recevant cette terre de la libéralité reconnaissante de son souverain, M. d'Arverne s'était pris pour elle d'un véritable amour auquel s'était mêlé un sentiment de respect comme si elle avait été le berceau de ses aïeux, et il avait voulu lui restituer son ancienne splendeur en lui conservant pieusement son style et son caractère. Mais s'il est une chose qui coûte cher et qui soit ruineuse, c'est justement le style. Aussi, en 10 ans, M. d'Arverne avait-il englouti là plusieurs millions sans parvenir à achever son œuvre. Aussitôt qu'il avait quelques heures de liberté, il montait en wagon, descendait à Mantes et, par la route qui suit la riante et fraîche vallée où coule la Vaucouleur, il arrivait à Vaupéreux. Alors il n'y avait plus ni sénateur, ni ministre, ni duc. C'était un jardinier qui alignait des arbres, un architecte qui dirigeait des maçons. Menuisier, peintre, tapissier, il était tout, ne se donnant pas le temps de manger et ne remontant jamais en voiture pour rentrer à Paris que fâché et exaspéré de partir. Cela était si bien connu que ceux qui avaient quelque chose à lui demander s'adressaient toujours à lui au moment de son arrivée, l'heure qui précédait son départ étant celle des rebuffades et des algarades. Comme tous les passionnés, il aurait voulu que ceux qui l'entouraient partageassent son enthousiasme pour l'objet de son amour. Mais il n'avait point été heureux de ce côté, particulièrement avec Madame d'Arverne, qui, trouvant que cette terre était ruineuse et engloutissait des sommes considérables qu'elle eût préféré dépenser autrement, n'était jamais venue à Vaupéreux avec plaisir, mettant sans cesse en avant des raisons plus ou moins bonnes pour ne quitter Paris que le plus tard possible. Lorsqu'elle avait parlé de s'établir à Vaupéreux, il avait donc éprouvé une bien douce satisfaction. Pour la première fois depuis 10 ans, il allait avoir une saison complète à lui. Il pourrait ne venir à Paris que lorsqu'il y serait appelé par les affaires de son ministère. Il allait vivre de la vie de campagne et il avait fait ses plans pour des travaux ajournés jusque-là parce qu'il devait être mené avec suite et surveillé par l'œil du maître. Cette satisfaction n'avait pas été de longue durée. Le jour même, elle avait été à Vaupéreux pour y donner certains ordres et le soir même, elle était rentrée à Paris. 3 jours après, M. d'Arverne, à son tour, avait été à son château, et grande avait été sa surprise de trouver au premier étage de l'aile gauche, celle occupée par Mme d'Arverne, lui, il occupait l'aile droite, des tapissiers qui travaillaient à meubler 3 pièces jusque-là inhabitées, un petit salon, une chambre et un cabinet de toilette. Les étoffes étaient riches, les meubles coquets. « Qui vous a donné des ordres ?» Madame la Duchesse. Sans continuer ses questions, il était revenu à Paris fort intrigué. « J'ai trouvé, dit-il en entrant, des tapissiers travaillant par votre ordre. »« Ah, ils sont déjà à l'ouvrage, tant mieux. Où en sont-ils » Il posait des tentures. « Dans la chambre ou dans le salon ?» Il travaillait dans les 3 pièces en même temps. « N'est-ce pas que la tenture du salon est jolie ?» « C'est une étoffe nouvelle qui m'a beaucoup plu. Vous ne m'aviez pas parlé de votre intention de faire meubler ces pièces. » Elle prit un air de dignité blessée. « Devais-je vous consulter ?» La question qu'il avait sur les lèvres était « À qui destinez-vous cet appartement ?» Mais précisément parce qu'il prévoyait la réponse, il n'osa pas la poser franchement. Il se connaissait, il savait combien il était incapable de se contenir et à tout prix, il voulait éviter une scène de violence, une querelle qui pourrait aller beaucoup plus loin qu'il ne voudrait une fois qu'elle serait engagée. Au point où les choses en étaient arrivées, elle ne pouvait avoir qu'une solution si on les poussait à l'extrême, une séparation amiable ou judiciaire. Et il ne voulait ni l'une ni l'autre de ces séparations. Il ne les voulait pas pour ses enfants, pour sa position, pour son nom, enfin pour son amour, car malgré tout il aimait sa femme, et avec cette fidélité de foi que donne seule la passion, il se disait qu'elle lui reviendrait un jour. Il n'eut pas longtemps à attendre pour voir que ses prévisions n'étaient que trop fondées. Aussitôt que les tapissiers eurent achevé leur travail, Madame d'Arverne alla s'installer à Vaupéreux, et sur la première liste de ses invités figura le duc de Nérouse. Ce fut lui qui occupa le nouvel appartement. Lorsque Roger arriva à Vaupéreux, Madame d'Arverne accourut sur le perron pour le recevoir au moment même où il descendait de voiture, puis tout de suite elle le conduisit elle-même à l'appartement qu'elle lui avait préparé. Comme des domestiques allaient et venaient, elle ne put pas aussitôt qu'elle l'avait espéré se jeter dans ses bras. Obligée de se contraindre, elle le mena successivement dans chacune des 3 pièces, le regardant pour saisir dans ses yeux une marque de satisfaction. À la fin, les domestiques les ayant laissés seuls, elle put l'étreindre d'un mouvement passionné. « Voici ton nid, » dit-elle, « notre nid. Je t'avais parlé d'une installation que je rêvais pour toi. Es-tu content? Cela te plaît-il? Il n'y a que toi et moi dans cette aile du château. Nous sommes porte à porte, comme mari et femme. Quand tu voudras que je vienne te rejoindre, tu n'auras qu'un signe à faire. Le feras-tu? Ah, je ne dis pas quelquefois, mais souvent, mais toujours. Ah, Roger, tu ne m'aimes pas comme je t'aime, passionnément, follement. J'en meurs de mon amour, de cette passion qui dévore ma vie. Et toi, tu vas, tu viens librement, frais, dispo, heureux quand nous sommes ensemble, cela est vrai. Mais ne te donnant pas à moi tout entier, ne te disant pas que le bonheur, c'est d'être ensemble, toujours, toujours au bras l'un de l'autre. Elle disait vrai en affirmant qu'elle l'aimait follement. Le lendemain, au déjeuner, elle montra jusqu'où allait cette folie. Lorsque les invités arrivèrent dans la salle à manger, au lieu de trouver une grande table servie pour tout le monde comme elle l'était la veille pour le dîner, ils trouvèrent plusieurs petites tables de 2, 4, 6 couverts dressées ça et là dans toute la longueur de la salle. « J'ai pensé, dit Madame Darverne, qu'il pouvait être agréable de se grouper selon ses sympathies, d'être entre soi plus à son aise, plus libre, et voilà pourquoi j'ai fait disposer ces tables pour le déjeuner. Au dîner, nous reprendrons la solennelle tradition. » Comme parmi les invités, il y en avait plus d'un qui trouvait agréable d'être entre soi et plus libre, cette idée fut applaudie et chacun se groupa selon ses sympathies. Pour Madame Darverne, elle s'assit seule à une petite table avec Roger devant elle, sous ses yeux. Elle l'avait bien à elle, sans craindre qu'on pût le lui prendre. Les paroles de M. de Condrieu-Revel n'avaient pas été perdues.